Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, un deuxième entretien de la semaine avec au micro Monseigneur Emmanuel Gobillard, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Lyon. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Merci d'avoir dit oui. Merci de votre fidélité. Alors on revient, si vous le voulez bien, sur cette belle et grande vocation du sacerdoce, de cet appel de Dieu. Et dans cet appel de Dieu, dans cette vocation particulière, il y a aussi ces périodes que l'on peut appeler aussi les crises de la vie, les crises de foi, la crise de la quarantaine. Cette crise de la quarantaine dans votre sacerdoce, Monseigneur, vous l'avez connue et vous l'avez traversée.
Oui, oui.
Alors, on peut y revenir quelques
oui,
minutes.
Voilà, donc je l'ai exprimé dans le livre que vous avez dans les mains. Oui. En fait, pour moi, j'ai l'impression que le Seigneur m'a devancé. C'est-à-dire que c'est comme s'il m'avait envoyé à Madagascar pour que je découvre par la pauvreté des autres ma propre pauvreté, mon propre besoin que j'avais de lui, que j'avais besoin aussi des autres. Il m'a fait perdre mon assurance parfois. Hein, c'est-à-dire que j'ai vécu aussi une espèce de conversion, j'allais dire, dans le domaine de l'homélie. Ça paraît bête à dire comme ça, mais en fait, je prêchais régulièrement à la cathédrale du Puy. Parfois, je préparais de moins en moins bien mes homélies. Et les gens me le disaient simplement. Ils disaient « Oh, c'était très très bien votre homélie. Tiens, ça m'a rappelé la semaine dernière. » Bon, en général, ça veut dire qu'on se répète un peu. Voilà. Et là, à Madagascar, je ne parlais pas le malgache. Ça a été très compliqué pour moi, cette langue. Et donc, il a fallu que je fasse des homélies qui duraient 30 secondes, que je prépare pendant 6 heures et qui étaient très mauvaises. Et là, je me suis dit, je prépare 6 heures une homélie, alors qu'avant, je ne le préparais pas. J'ai senti un appel à ce que je me renouvelle dans cette dimension-là. Et en plus de ça, le pape François, en même temps, écrivait Evangelii Gaudium sur l'homélie. Je suis revenu au Puy un an après. Et je me suis dit que voilà, désormais, je préparerai toutes mes homélies en les travaillant, en priant, en méditant la parole de Dieu, en allant voir les pères de l'Église, parfois certains commentaires. Donc, je prends beaucoup de temps pour les préparer. Et une fois ou l'autre, je ne l'ai pas préparé. Je dois vous dire, je vous avoue ça.
C'est une confession, Monseigneur.
Ouais. Oui. Et en fait, ça m'est arrivé une fois à la cathédrale. J'ai dû m'arrêter au bout de quelques instants. J'avais plus rien à dire. Donc, j'ai l'impression d'avoir vécu ça comme une très grande grâce. Le Seigneur m'a privé de la parole parce que j'avais pas préparé.
Donc c'était pas considéré pour vous comme un échec.
C'est une blessure
profonde,
une humiliation.
Et
une humiliation, ça permet parfois de changer. Donc voilà, maintenant j'avoue que je travaille beaucoup mes homélies parce que je sens que c'est pas moi qui dois parler, c'est pas mes idées que je dois transmettre, mais c'est les idées que le Seigneur veut que je transmette, et ça passe par le travail, ça passe par la méditation, par la prière, par le travail des autres aussi qui font des choses magnifiques. Moi j'aime beaucoup lire Madame Pelletier, Madame Tabu, tous ces commentateurs ou tel commentaire de l'écriture qui m'aident beaucoup à préparer. Et en même temps que je prépare, je me forme moi-même. C'est-à-dire que j'apprends aussi beaucoup. En fait, on apprend que ce qu'on enseigne, on apprend que ce qu'on transmet.
Voilà. Alors, puisque vous parlez aussi de ce temps bien précis de la préparation de l'homélie, comme toute homélie, le temps de l'homélie, le format aussi d'une bonne homélie, elle est de combien de temps, Monseigneur? Alors, le pape François insiste et le rappelle.
Voilà, alors pour moi, j'ai dans la tête 7 minutes.
Oui,
voilà.
Moi aussi, je vous confirme.
Voilà, c'est ça. Et donc l'homélie, c'est quelque chose de particulier, hein, où on doit faire comprendre aux gens que l'évangile qu'on vient de proclamer, il est actuel. Il intéresse les gens, il concerne les gens et qu'il est un appel à la conversion maintenant. Donc ça veut dire qu'il faut qu'à la fois l'homélie soit très bien préparée, mais en même temps, ce n'est pas un texte écrit, c'est un vrai dialogue avec les personnes, enfin en tout cas une transmission d'une parole forte qui doit être enracinée dans l'évangile. Donc voilà, en fait, le
vous
pape a tout dit, surtout.
Vous y tenez aux 7 minutes?
Comment?
Vous y
malheureusement,
tenez?
Non, pas toujours. Parfois, je fais moins, parfois, je fais plus, mais j'essaye quand même d'avoir ce format-là. En fait, pour m'y tenir, j'écris tout, et je sais que, je vais vous dire concrètement, mon format A4, deux pages A4 en 14, hein, en police 14, ça fait 7 minutes. Donc je sais que quand je l'écris, ça fait ça, et j'essaye d'être fidèle le plus possible à ce que j'ai écrit sans le lire, pour que ça dure 7 minutes.
Alors on sort comment, on traverse comment une telle crise?
Et ben, en fait, je suis sorti très heureux de cela, renouvelé, ayant vécu une expérience formidable à Madagascar, en ayant fait des rencontres incroyables.
Un homme dépouillé à Madagascar.
Ben, j'ai été dépouillé par le fait que je pensais être l'homme de la parole. J'ai fait du théâtre, je prêchais, je me réalisais.
De tous les talents et de tous les charismes.
En fait, voilà, c'est ça. Et je me réalisais dans la parole. Et là, j'ai été privé de la parole parce que je parlais pas le malgache. J'ai eu le sentiment de n'être plus rien, en fait. Qui suis-je lorsque je suis pas capable de fanfaronner avec ma parole assez facile, parce que j'ai été formé à ça? Donc qui suis-je quand j'ai plus ça? Et ben, je me suis dit, je ne suis plus rien. C'est-à-dire qu'aux yeux des autres, ben, j'arrive pas à me valoriser.
La misère.
Mais voilà, c'était la misère. Et le Seigneur s'est penché vers moi par sa misère, icorde.
Une lumière aussi pour vous dans votre sacerdoce. C'est un homme et un prêtre qui se relèvent de cette misère.
Oui, alors en fait, c'est pas non plus une crise énorme, mais c'est arrivé au bon moment, le Seigneur est arrivé au bon moment, et j'encourage les prêtres à vivre parfois ces temps de pause dans leur vie, tous les jours par un temps d'oraison, tous les ans par un temps de retraite, parfois toutes les semaines par un temps de repos le lundi, et peut-être au bout de 20 ans ou 15 ans, par un temps de véritable année sabbatique vécue avec le Seigneur. Je pense que c'est très important.
Alors parfois, vous allez nous confirmer, en tant qu'évêque auxiliaire d'un archidiocèse comme celui de Lyon, on dit, je recevais il y a plusieurs semaines à ce micro et dans cette émission un supérieur de séminaire, qu'il y a cette fameuse crise des 10 ans du sacerdoce. Ces 10 ans nés où c'est la lassitude qui s'installe parfois, la tiédeur, le ronronnement aussi d'un ministère de curé en paroisse. Est-ce que vous confirmez cette crise des 10 ans de sacerdoce?
Oui, alors je ne sais pas, parce qu'il y a des crises de 10 ans, il y a des crises de 20 ans, il y a des crises de 15 ans, ça dépend un peu des personnes. Pour moi, la crise, ça vient d'un mot grec, krinein, ça veut dire séparer. Hein. À un moment, il faut apprendre à grandir, à se séparer de soi-même, hein, pour rencontrer le Seigneur, à se séparer de soi-même pour rencontrer les gens. Et y a une évolution dans la vie. Et c'est nécessaire. Voilà, donc les crises, elles sont bonnes. Voilà, elles sont bonnes, elles sont nécessaires. Sinon, on ne grandit pas, sinon il n'y a pas de croissance. Et le Seigneur nous éduque à travers les crises. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'elles arrivent, les crises. Elles peuvent arriver à tout moment. Mais il faut les prendre comme quelque chose de bon et pour se convertir.
Une correction de la part du Seigneur?
Ah oui, bien sûr. Et c'est dans la Bible, tout ça. Hein, le Seigneur, il aime, il nous aime, donc il nous corrige, donc il nous éduque, donc il nous fait grandir.
Donc ces crises rassurent un peu les auditeurs qui aujourd'hui sont inquiets aussi de voir notre institution, l'Église, ses frères prêtres tomber. Comment pouvez-vous peut-être encourager les auditeurs à prier pour nos frères prêtres et nos frères évêques, hein, car le ministère est un ministère qui peut parfois être difficile aussi à porter?
Alors oui, prier, c'est sûr, c'est important. C'est aussi de dire, attention, n'ayez pas un mauvais regard sur le prêtre ou l'évêque. Ne mettez pas la barre trop, ne leur en demandez pas trop, ne les considérez pas non plus comme trop parfaits. Si vous les mettez sur un piédestal, quand ils tombent, ils vont tomber de beaucoup plus haut, en fait. Hein, donc, à mon avis, il y a aussi une humilité, une simplicité des fidèles à accueillir le prêtre tel qu'il est, avec ses faiblesses et ses difficultés, mais aussi avec ses limites. Il n'est pas corvéable à merci, et on n'est pas là se répandre, couvrir le territoire, voilà. À un moment, on cherche toujours à couvrir le territoire, il faut qu'il y ait toujours plus de messes, il faut que le prêtre soit présent pour dire le chapelet, mais enfin les fidèles, ils savent, hein, voyez. Donc il ne faut pas prendre le prêtre pour quelqu'un qui est corvéable à merci. Certes, il a donné sa vie, comme chacun d'entre nous, on est appelé à la donner, hein, pas plus ou pas moins que les autres, les pères et les mères de famille le font aussi bien. Mais donner sa vie, c'est aussi le faire de façon ajustée.
Demain, on se retrouve à la même heure, Monseigneur Emmanuel Gobillard. On reste aussi sur cette vocation particulière du prêtre et nous reviendrons quelques minutes. Et je crois que c'est important dans les temps que l'Église traverse aujourd'hui, des temps aussi d'épreuves, cette question du célibat dans le sacerdoce.
Très bien.
À demain. Merci.